Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 29 mai 2023. Dans quelques instants, je vais vous présenter le journal d'information et un commentaire politique. Israël recourt au plus grand ballon espion du monde de peur de la résistance. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran et Oman partagent leur position sur la sécurité régionale, a souligné le président iranien Ebrahim Raisi. Raid israélien sur Damas, la DSA syrienne abat plusieurs missiles. Et l'Union africaine adopte une feuille de route pour résoudre le conflit au Soudan. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le président iranien affirme que l'Iran et Oman ont une position commune sur l'amélioration de la sécurité, de la paix et du bien-être des nations de la région. Lors d'une réunion entre les délégations de haut rang d'Iran et d'Oman à Téhéran, dimanche 28 mai, en présence du sultan d'Oman, Haitham bin Tahrir al-Said, le président iranien a déclaré que le renforcement de la convergence régionale poursuivie par les deux parties contribuera à l'essor de leurs relations et coopération. Rappelons que Téhéran et Mascate ont progressé dans l'amélioration de leurs liens, du commerce au niveau des investissements. Le président iranien s'est réjoui que les deux pays jouissent de capacités pour renforcer la coopération dans les domaines de l'industrie, du commerce, des communications, de la défense et de la sécurité, des routes et des voies ferrées, du transport et du transit maritime, des échanges financiers et monétaires et de l'énergie. Le sultan Haitham a pour sa part rappelé que les deux parties avaient réussi à doubler leurs échanges commerciaux mutuels depuis la visite du président iranien à Mascate en mai dernier. Haitham bin Tahrir al-Said est arrivé dimanche 28 mai à Téhéran pour une visite d'État de 2 jours. L'objectif de cette visite est de renforcer les relations amicales entre les deux pays dans divers domaines, d'élargir la coopération et d'examiner les derniers développements dans la région et dans le monde. La visite se concentrera sur la promotion de la coopération bilatérale et s'appuiera sur les accords conclus lors de la visite du président iranien à Mascate en mai de l'année dernière. Selon les observateurs, l'accord d'investissement avec Oman garantit un nouvel accès aux entreprises iraniennes pour investir dans le pays arabe, tandis que les managers et les spécialistes des entreprises iraniennes pourront travailler dans les filiales omanaises pendant plusieurs années sans restriction. Le président iranien est d'ailleurs convaincu que les deux pays devraient chercher à finaliser la formation d'un fonds pour soutenir les projets d'investissement conjoints entre les deux pays. Dimanche, après avoir signé un important protocole d'entente avec son homologue omanais sur des projets d'investissement conjoints, le ministre iranien des Finances, Ehsan Qandouzi, a déclaré que l'un des principaux objectifs de la visite du sultan d'Oman en Iran était de mettre au point un mécanisme qui pourrait améliorer les investissements entre les deux pays. Le but de l'accord signé entre les deux pays est de passer d'une ère de commerce à une ère d'investissement entre les deux pays, a déclaré Qandouzi. Il a déclaré que l'Iran et Oman avaient convenu de mettre en place un comité conjoint pour l'investissement, ajoutant que les deux pays étaient également parvenus à un accord initial pour un mécanisme conjoint de soutien à l'investissement. Au cours du voyage clé du président Raisi à Mascate, des responsables iraniens et omanais ont signé 12 documents de coopération et mémorandums d'accord pour l'expansion de la coopération bilatérale dans divers domaines. Ce dimanche, les deux parties ont également signé 4 documents de coopération dans les domaines de l'économie, de l'énergie, des investissements et des zones franches. La visite du sultan Haïsam à Téhéran marque une étape importante dans les relations entre les deux alliés régionaux, ouvrant de nouvelles voies pour une coopération diplomatique plus étroite et un dialogue accru. Oman est depuis longtemps un médiateur dans les interactions entre l'Iran et l'Occident. Le pays a négocié la libération de plusieurs citoyens étrangers et binationaux et participé à l'élaboration de l'accord nucléaire de Vienne en 2015. Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Chtiani, a déclaré que l'Iran n'a aucune restriction sur l'exportation de matériel militaire vers d'autres pays, dont le Venezuela. La République islamique aidera tout pays qui reste attaché à la paix internationale, a déclaré le général Chtiani. Dimanche 28 mai, interrogé sur la coopération militaire de l'Iran avec le Venezuela et la possibilité d'exporter du matériel iranien vers ce pays. Nous aiderons certainement tout pays qui s'engage aux intérêts internationaux, la sécurité et la paix, et qui pense à la sécurité commune mondiale, a déclaré le ministre iranien de la Défense. En juin dernier, l'Iran et le Venezuela ont signé un accord de partenariat de 20 ans pour étendre leurs liens dans divers secteurs, tels que la coopération militaire. Au cours de sa visite au Liban, le directeur de la radio-télévision de la République islamique d'Iran, IRIB, Peyman Djebeli, s'est entretenu dimanche 28 mai avec le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah. Le chargé d'affaires de l'ambassade iranienne à Beyrouth a également participé à cette réunion. Les défis médiatiques et politiques avec lesquels est aux prises l'axe de la résistance ont été abordés lors de cette rencontre. La manière d'interagir avec ces problèmes a été considérée comme une part de responsabilité de l'axe de la résistance pour affronter le faux régime israélien. Au cours de sa visite au Liban, le directeur de l'IRIB et la délégation qui l'accompagnait ont rencontré le président de la Chambre des députés du Liban, Nabih Perry, dans le but de commémorer le 23e anniversaire de la libération du sud du Liban. Grâce à la résistance du peuple du Liban, on a assisté à un changement de carte politique de la région et du monde, a indiqué Peyman Djebeli après sa rencontre avec Nabih Perry. Il est à noter que Peyman Djebeli est arrivé vendredi 26 mai à Beyrouth, capitale du Liban, afin d'élargir les relations culturelles avec ce pays. Lors de son arrivée à l'aéroport international Rafik Hariri de Beyrouth, M. Djebeli a affirmé que sa visite visait à une consultation en vue de l'amélioration de l'interaction médiatique entre l'Iran et le Liban comme moyen de meilleure représentation des acquis de l'axe de la résistance. Il a salué la couverture correcte, ponctuelle et rapide des événements sensibles dans le pays qui forment l'axe de la résistance régionale. Le directeur de l'IRIB a évoqué l'importance de l'intégration et de la synergie entre les médias de la région dans le processus de couverture des victoires de la résistance. Une nouvelle vague de raids aériens israéliens sur la Syrie active la DCA syrienne. Une forte explosion s'est fait entendre dimanche, tard dans la nuit, au-dessus de Damas, la capitale syrienne. L'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté, citant des sources locales, que d'intenses raids aériens ont été menés par l'armée du régime sioniste sur la capitale syrienne et ses alentours. La DSA de l'armée syrienne a réussi à intercepter plusieurs missiles. Selon une source militaire citée par Sana, l'attaque a eu lieu vers 23h45 heure locale dimanche. Elle a été lancée depuis les hauteurs occupées du Golan, ciblant certaines zones à proximité de Damas. Nos défenses aériennes ont intercepté les missiles de l'agression israélienne et abattu certains d'entre eux, a déclaré la source, ajoutant que l'attaque n'avait causé que des dégâts matériels. Israël occupe les hauteurs du Golan depuis 1967, lorsqu'il a mené une guerre à grande échelle contre la Syrie et plusieurs autres pays de la région. Depuis, le régime y a construit des dizaines de colonies, bien que la communauté internationale n'ait jamais reconnu son contrôle autoproclamé sur le territoire montagneux. Tel Aviv utilise le territoire comme rampe de lancement pour ses actes d'agression militaire contre la Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est donné en tête dimanche soir du second tour de l'élection présidentielle après le dépouillement de plus de 98% des voix, selon l'agence presse Anadolu. Au pouvoir depuis 20 ans, Erdogan obtient à ce stade 52,3% des suffrages contre 47,7% pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu, selon ses résultats provisoires. Des partisans d'Erdogan commencent à célébrer la victoire du président sortant à Istanbul. À noter que les Turcs se sont rendus aux urnes pour le second tour des élections présidentielles qui opposent le président Recep Tayyip Erdogan au chef de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Le taux de participation globale au premier tour a été de 87,04%, parmi lesquels 49,5% des suffrages sont allés à Erdogan et 44,9% ont été exprimés en faveur de Kılıçdaroğlu. Les présidents iraniens et russes ont félicité le président turc pour sa réélection à la tête de la Turquie. Le président Ibrahim Raisi a félicité son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection à la tête de la Turquie. C'est le témoignage de la confiance que lui accorde durablement le peuple turc, a-t-il estimé. Dans un message envoyé dimanche, le président iranien s'est dit convaincu qu'avec le nouveau mandat de son homologue turc, les relations entre la République islamique et la République de Turquie se renforceront encore plus. Les relations entre les deux pays voisins reposent sur de solides liens historiques, culturels et religieux, la politique de bon voisinage, le respect mutuel et les intérêts communs. L'étroite coopération entre l'Iran et la Turquie fournira des conditions encore plus favorables à la promotion de la paix, de la stabilité et de développement dans la région, a-t-il noté. Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine a adressé un message de félicitations au président turc. La victoire aux élections est le résultat naturel de votre travail dévoué envers la Turquie. Une preuve claire du soutien du peuple turc à vos efforts est le fruit d'une politique étrangère indépendante basée sur les intérêts nationaux de la Turquie, a-t-il affirmé. Poutine a remercié Erdogan pour le renforcement des liens amicaux entre la Russie et la Turquie, ainsi que pour le développement de leur coopération dans divers domaines. L'Union africaine a adopté la feuille de route pour le règlement du conflit au Soudan en vue de faire taire les armes dans le pays, selon un communiqué de l'Union africaine publié dimanche 28 mai. Cette feuille de route a été adoptée lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'UA qui s'est tenue samedi au niveau des chefs d'État et de gouvernement et qui portait principalement sur la situation au Soudan, ajoute le communiqué. La feuille de route a mis l'accent sur 6 éléments qui incluent la création d'un mécanisme de coordination pour assurer que tous les efforts réalisés par les acteurs régionaux et internationaux soient harmonisés et efficaces, la cessation immédiate, permanente, inclusive et générale des hostilités, ainsi qu'une réponse humanitaire efficace. La réunion de haut niveau a souligné l'importance primordiale d'un processus de paix unique, inclusif et consolidé pour le Soudan, coordonné sous les auspices conjoints de l'UA, de l'Autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, des États de la Ligue arabe et des Nations unies avec des partenaires ayant des objectifs similaires. Le Conseil, profondément inquiet, condamne fermement le conflit insensé et injustifié entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide FSR, qui a abouti à une situation humanitaire désastreuse sans précédent et aux meurtres sans discrimination de civils innocents, selon le communiqué. Le Soudan est en proie à des affrontements armés meurtriers entre les forces armées soudanaises et les FSR dans la capitale Khartoum et dans d'autres régions depuis le 15 avril, les deux parties s'accusant mutuellement d'avoir initié le conflit. Une cérémonie de commémoration de la Journée mondiale de l'Afrique a été organisée dimanche 28 mai à Téhéran, capitale iranienne, à l'occasion du 60e anniversaire de la fondation de l'Union africaine. La cérémonie s'est déroulée avec la participation du vice-président iranien pour la science et la technologie, du président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique du Parlement iranien et de nombre d'ambassadeurs et de chefs des représentations étrangères résidant à Téhéran. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Téhéran, en tant que représentant des ambassadeurs des pays africains, a brossé un tableau clair de l'histoire de la libération de l'Afrique du joug du colonialisme, des progrès des pays africains ainsi que de la création du marché commun africain dans le sens de l'intégration régionale pour les pays de ce continent. Il a aussi évoqué les bonnes et étroites relations en développement continu de la République islamique avec les pays africains, la remerciant également pour avoir organisé cette cérémonie. Le vice-président iranien a pour sa part souligné les affinités irano-africaines, évoqué la ferme volonté du gouvernement iranien à promouvoir les relations avec le continent africain dans divers domaines, dont la science, la technologie, la médecine, l'industrie, etc. La Journée mondiale de l'Afrique est le jour de la commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, le 25 mai 1963. L'organisation est devenue l'Union africaine en 2002. La journée est célébrée en Afrique et dans le reste du monde. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques instants. Je vous présente le commentaire politique. Israël recourt au plus grand ballon espion du monde de peur de la résistance. Le Hezbollah a organisé dimanche 21 mai une manœuvre militaire d'envergure dans le sud du Liban qui a fait preuve une fois de plus de la puissance militaire de la résistance libanaise. Terrifié de l'idée d'une guerre sur plusieurs fronts contre l'axe de résistance, l'entité sioniste a tenté de faire voler un ballon espion pour surveiller les mouvements dans les profondeurs de la Syrie, du Liban et de la Jordanie. Selon le journal israélien Yediot Ahronot, ce grand ballon espion a été utilisé pour surveiller les mouvements à une profondeur de plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur des pays voisins pour détecter notamment le vol de tout avion aux alentours des frontières de la Palestine occupée d'Israël. D'une longueur de 117 mètres, le ballon est considéré comme le plus grand ballon espion au monde, qui dispose également de caméras spéciales, de matériel informatique et de systèmes radar. Le journal a prétendu que le ballon est capable de détecter des missiles et des drones à longue portée lancés depuis l'Irak, la Syrie, la Jordanie et le Liban, et que le ballon espion se déplace à haute altitude au-dessus du triangle frontalier avec la Syrie et la Jordanie et surveille les mouvements dans les territoires syriens et libanais. Yediot Ahronot a écrit que le ballon espion israélien surveillerait également les mouvements dans l'aéroport international de Damas et les profondeurs des territoires libanais. Les autorités du régime sioniste ont déjà exprimé leur vive inquiétude à l'idée d'entrer dans une guerre multifront, au cours de laquelle les terres occupées seraient ciblées par des milliers de missiles et de drones de l'axe de la résistance.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de débat de Presse TV français. Nous sommes le samedi 27 mai en direct depuis la capitale iranienne Téhéran, également depuis le studio de Presse TV français. Dans cette édition de débat, nous allons évoquer la défense iranienne, un symbole de résistance et de fierté pour les Iraniens. En effet, il y a près de 3 jours, en même temps que l'anniversaire de la libération de la ville de Khorramshahr, après des années de résistance durant les 8 ans de défense sacrée, on a eu le dévoilement d'un nouveau missile balistique de nouvelle génération appelé Khorramshahr ou Khaybar. Alors, ce dévoilement intervient en pleine campagne de sanctions et de pression maximale des États occidentaux à leur tête, les États-Unis. Alors, comment pourrait-on interpréter ce développement dans l'industrie militaire, mais aussi surtout de la défense aérienne, mais aussi la défense de la marine iranienne dans tous les domaines, en fait, et aussi terrestre. Nous allons répondre à toutes ces questions avec nos deux invités. Je vous présente nos deux invités. Il s'agit de Maître Arnaud Develet, juriste international, également Luc Michel, géopoliticien. Je vous dis bonjour, messieurs, et merci de nous avoir accordé votre temps pour cette émission. Alors, Maître, on va commencer avec vous, si vous voulez bien. Alors, j'ai vu que vous avez un petit peu réagi concernant le fait que alors, l'Iran a constamment souligné qu'il avait le droit de développer ses actions de défense malgré les sanctions et que, vu des sanctions internationales prenant pour cible son industrie industrielle, son industrie militaire dont il a besoin pour se défendre notamment. Donc, quel est votre point de vue à ce sujet, Maître ?
Ben écoutez, je dirais que après les déclarations de Madame Catherine Colonna sur l'opportunité de traduire en justice le président de la République arabe syrienne Bachar el-Assad suite à son retour triomphal dans la Ligue arabe, le retour de son pays dans la Ligue arabe, comme il se doit après 12 ans d'isolation, ces déclarations d'Anne-Marie Legendre reflètent une fois plus que la diplomatie française, entre guillemets, est complètement déconnectée, non seulement des aspects purement juridiques, de l'accord sur le nucléaire, mais également dans sa façon, si je puis dire, d'intervenir de manière volontaire et hors tout cadre diplomatique dans des affaires internes à l'Iran qui, comme vous l'avez souligné en ouverture, portent avant tout sur la capacité pour la République islamique d'Iran de pouvoir développer des moyens d'assurer sa souveraineté. Et dans ce contexte précis, effectivement, l'inauguration, la présentation de ce dernier modèle balistique va au cœur d'ailleurs de ce qui avait été plus ou moins présenté par l'administration Trump à l'époque, lorsqu'il s'agissait, selon Trump lui-même, de ramener l'Iran dans une forme de nouvel accord, d'élargir le contour de l'accord sur le nucléaire en y intégrant, je cite à l'époque, une discussion sur les moyens balistiques de la République islamique d'Iran et la soi-disant influence néfaste que la République islamique d'Iran aurait dans la région du Moyen-Orient. De toute évidence, et ainsi que les dirigeants de la République islamique d'Iran l'ont à maintes fois répété, ces deux thèmes n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre, mais on s'aperçoit de plus en plus que visiblement les prouesses de l'industrie aéronautique et balistique de la République islamique d'Iran inquiètent de plus haut point dans les chancelleries occidentales. Ces déclarations d'Anne-Marie Legendre ne sont qu'un reflet de cette réaction cutanée du Quai d'Orsay.
Exactement. Merci, Maître, pour vos explications. Restez en ligne. Luc Michel, je m'adresse à vous. Est-ce que vous êtes avec nous ?
Oui, je vous écoute.
Merci. Vous avez entendu l'analyse de Maître Develet. Vous, dans un premier temps, comment interprétez-vous ce développement de l'industrie militaire et également de défense iranienne en pleine campagne de sanctions et de pression américaine, une campagne qui ne cesse de s'accentuer, évidemment, contre l'Iran, mais l'Iran qui a bien sûr le droit de développer cette industrie et de s'assurer de sa défense et de son industrie militaire.
Tout d'abord, bonjour à vous et à votre équipe et à Maître Develet. La première réaction, elle concerne la France. La France du régime Macron, c'est devenu simplement un chien courant de l'impérialisme américain. La France du général de Gaulle, ou même encore de Jacques Chirac ou de Dominique de Villepin, est bien oubliée. Et l'était sous l'axe Paris-Moscou que nous avions lancé au début des années 1990, sont aujourd'hui obsolètes. L'Irak, évidemment, a le droit de se défendre. Il y a eu depuis la destruction de la charmière de Kadhafi. C'est un dossier que je connais bien puisque j'ai vécu personnellement cette destruction. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, la Corée du Nord, qui est un autre État sous sanction et sous menace occidentale, Elle fait référence à sa constitution à la destruction de la chevalerie libyenne et à la nécessité de ne pas désarmer et de se défendre contre l'impérialisme. C'est dans cette perspective que se place la défense de l'Iran. La deuxième chose, c'est que les embargos et les blocus ont été inopérants puisque l'Irak a trouvé en elle-même les forces de devenir une grande puissance militaire et qu'ayant émergé comme une grande puissance régionale alliée à Pékin ou à Moscou, elle est aujourd'hui capable de répliquer mondialement.
Exactement. Et en ce qui concerne également la politique, Maître Develet a en effet évoqué ce sujet, ces déclarations des autorités françaises vis-à-vis de la Syrie, mais non seulement de la Syrie. En fait, ça montre cette insolence et cette ingérence des pays occidentaux, dont la France, dans les affaires des pays du Moyen-Orient, dont la Syrie, l'Iran, etc.
Les Français n'ont pas compris que le monde de la géopolitique depuis un an et demi a profondément changé. Les réseaux qui attaquent Bachar el-Assad, ce sont les mêmes réseaux qui attaquent Poutine ou la Chine, ou l'Iran encore aujourd'hui. Évidemment, c'est devenu inacceptable un an et demi après le début de l'opération spéciale en Ukraine. Il y a les réseaux de Georges Soros, il y a les réseaux atlantistes européens. Tous ces gens n'ont pas compris qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire. C'est cela qu'il faut retenir, évidemment. Et le retour de la Syrie sur la scène arabe et mondiale est évidemment un défi inacceptable pour les Français. Il y a une autre affaire qui révèle, je dirais, la dangerosité, la validité des Français. C'est l'affaire Riyad Salahdeh, les poursuites lancées par Paris dans une affaire de bien mal acquis contre le directeur de la Banque du Liban. Ce sont les réseaux de Georges Soros, les réseaux du Quai d'Orsay, l'avocat français William Bourdon, de Sherpa et de Transparency International, qui est le principal associé de Soros en France, qui sont aujourd'hui à la manœuvre au Liban, comme ils sont à la manœuvre en Guinée équatoriale. Cela démontre que le combat est mondial et évidemment que la réponse à l'impérialisme devra être mondiale.
Merci pour vos explications. Alors, Maître, en ce qui concerne le développement du système du missile balistique iranien, la défense iranienne, est-ce qu'à votre avis, si ça continue comme ça, il y aurait risque de réaction de la part des Occidentaux, entre autres, ou soit des réactions diplomatiques en plus de sanctions, de pressions, des réactions peut-être militaires?
Mais écoutez, je pense qu'en ce qui concerne une action militaire, les Occidentaux savent très bien que toute tentative d'aventurisme militaire dans la région, surtout après les tentatives de scinder la région en deux, en mettant en avant ces soi-disant accords Abraham, l'Arabie Saoudite s'est extraite de ce piège et a fait ce qu'il fallait en tendant la main à la République islamique d'Iran et en rétablissant les relations diplomatiques entre ces deux pays incontournables de la région. Et partant de là, je pense que, si je puis dire, la fenêtre, pour peu qu'on puisse parler d'une fenêtre de tir, est pour l'instant fermée. Ce qui n'empêche pas que la guerre hybride, telle qu'on a pu la découvrir depuis maintenant quelques années, sous-entend bien sûr des déclarations inopinée de la part des chancelleries et quelque part un discours d'impuissance, parce qu'on a pu voir que l'arme des sanctions ne fonctionne plus du tout, qu'il y a maintenant une synergie entre les pays visés, dites puissances révisionnistes selon la doctrine officielle du Pentagone, qui inclut votre pays, la République populaire de Chine et la Fédération de Russie, comme étant les trois puissances prééminentes qu'il convient pour le Pentagone de cibler, et que effectivement les expériences des uns et le savoir-faire des autres fait que ces trois joueurs incontournables maintenant partagent des expertises et parviennent à contourner et rendre, ce faisant, l'arme des sanctions complètement obsolète. Et donc, il ne reste plus que, dans ces conditions-là, des déclarations et bien sûr des, comment dire, du colportage de médiatique qui, plus le temps passe, plus on s'aperçoit que ce n'est qu'une chambre d'enregistrement, une chambre d'écho qui fait état de faits qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et j'allais presque dire que l'opinion publique en Occident a bien identifié ce phénomène, ce qui fait que pour peu que ces moyens médiatiques soient déployés à l'attention des populations occidentales, même sur ce plan-là, malgré leur puissance de feu, plus personne, ou en tout cas de moins en moins de gens, ne font confiance aux sources dites officielles.
Merci Maître. Et en ce qui concerne ce suivisme des pays occidentaux, hein, on a déjà évoqué le sujet à travers différentes émissions. Il y a ce suivisme des pays occidentaux, à savoir si les États-Unis font ça, nous allons faire la même chose. S'ils vont mettre des sanctions, nous allons les suivre. Est-ce qu'à votre avis, ce suivisme y aura une fin un jour? Est-ce que les pays occidentaux décideront un jour d'avoir leur politique indépendante eux-mêmes?
Donc, il y aura au pouvoir en Occident.
D'accord. On va écouter l'analyse de Luc Michel. Ensuite, je redemanderai la question à Maître Develay. Luc Michel, on vous écoute.
Tant qu'il y aura au pouvoir en Occident des régimes atlantistes qui ont été au pouvoir par les Américains, il n'y aura pas de rupture avec le suivisme occidental. Mais il y a de plus en plus un éloignement et une colère de ce qu'on appelle les élites neutres. Les élites neutres, ce sont les diplomates. Ce sont les militaires, les industriels. Eux ne veulent plus suivre les États-Unis. C'est particulièrement le cas en Allemagne, où ça se passe. Pour le reste, je ne crois pas une aventure militaire. L'Occident n'a plus les moyens des États-Unis, des aventures militaires. Pour parler comme les Chinois et les Vietnamiens dans les années 1960, les Américains sont devenus des tigres de papier. Il reste à voir les sanctions, mais les sanctions marchent de moins en moins. Il y a plus de 11 000 sanctions contre la Russie. On parle maintenant de sanctions contre la Chine et pas à l'Iran, les sanctions n'ont pas marché. Dès lors, évidemment, même cette tentation d'imposer des sanctions au monde, elle ne fonctionne plus. Il suffit de voir le cas de l'Inde. L'Inde et la Russie ont contourné les sanctions et on n'ose pas la sanctionner. Il y a la même chose des droits liés. Il y a le G20, évidemment, qui est du côté du bloc de l'Est et qui résiste aux sanctions. Dès lors qu'aujourd'hui, l'Occident est un tigre de papier.
Merci, Luc Michel. Alors, vous, Maître, quelle est votre analyse sur la question que je viens de poser, ce suivi des pays occidentaux?
Alors, de toute évidence, je partage l'analyse de Luc Michel quant au fait que les élites, entre guillemets, européennes, hein, puisque bon, c'est vraiment de cela dont il s'agit, sont de toute manière repérées depuis longtemps dans leur carrière respective. Le changement ne viendra pas du haut. Ceci dit, et je partage encore une fois l'analyse de Luc Michel, c'est qu'il y a maintenant des industries et des membres des établissements européens qui, eux, informés comme ils le sont, on voit très bien que sur la durée, les choses vont forcément devenir de plus en plus compliquées dans les pays concernés, ciblés, qu'on a pu voir à l'aune de la destruction du Nord Stream 2, que l'Amérique avait maintenant décidé que l'économie européenne en tant que telle devait être sacrifiée à l'aune des intérêts américains, que cela va forcément entraîner des dislocations socio-économiques très graves dans ces pays, que pour l'instant, à l'aune d'un hiver dernier relativement doux, ça ne s'est pas encore forcément ressenti, mais on peut imaginer qu'en étant incapable de pouvoir avoir accès à des sources d'énergie bon marché qui permettent de faire marcher une économie digne de ce nom, ça va être très compliqué pour les pays occidentaux, surtout en Europe, déjà très 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 endettés, de pouvoir continuer à offrir une offre, un pacte social à leurs concitoyens. Et on peut voir déjà de plus en plus que dans la rue, ça commence maintenant à bouger. Alors est-ce que les thématiques qui sont épousées par les manifestations sont des thématiques qui sont pertinentes On pourrait penser que, bon, dans la plupart des cas, pas vraiment, pas encore en tout cas. Mais tout ça se coagule et je pense qu'à terme, il va y avoir forcément un point de rupture et que ce point de rupture pourrait intervenir assez rapidement, je dirais peut-être dans les 18 mois, pas plus que 2 ans, ça c'est certain. À la vitesse de la détérioration de l'économie européenne, qui ne produit rien, qui n'a plus de base industrielle, qui n'exporte rien, endettée comme elle l'est, et avec un personnel politique incapable de, si je puis dire, de confronter les Américains pour que, si je puis dire, les abus cessent, ça ne peut que mal se terminer.
Merci pour vos explications. Et Luc Michel, en ce qui concerne peut-être une dernière question à vous, cette nouvelle page qui s'est ouverte dans la région avec le rapprochement entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Syrie, donc c'est quand même un rapprochement très important, très significatif. Est-ce que ces rapprochements et ces reprises de relations pourraient également en fait faire échec aux politiques et aux plans qu'avaient misé en fait les États-Unis dans la région?
Bien entendu, les États-Unis et Israël sont en train de perdre la main au Proche-Orient. Et aujourd'hui, la désoccidentalisation du monde que l'on vit en Afrique, on la vit aussi au Proche-Orient. Puisque le principal allié des États-Unis, qui est l'Arabie Saoudite maintenant, s'est tourné vers le bloc de l'Est. Il n'y a pas seulement les Saoudiens, il y a également les pétromonarchies, les Émirats arabes unis, du Qatar et même le Maroc. Donc les États-Unis ne sont plus en mesure de contrôler la politique. C'est cela qu'il faut constater. Et cela aura des conséquences évidemment mondiales. Il y a un an et demi, les États-Unis contrôlaient 100% de la planète. Aujourd'hui, ils ont derrière eux 15% de la population mondiale. 85% étant de leur aveu même. C'est le cas de l'ambassadeur Liban de la France au Liban. 85% de la population mondiale n'est plus du côté des États-Unis.
Merci. Et vous, Maître Develay, on a près de 2 minutes devant nous. Vous, à votre avis, est-ce que cette nouvelle page, ce nouveau chapitre qui s'est ouvert dans la région pourrait changer totalement la donne dans la région, mais également avec les politiques des États-Unis?
Encore une fois, je pense que, comme le dit Luc Michel, les États-Unis n'ont plus les moyens de leurs ambitions. Il y a encore quelques vestiges idéologiques au sein de l'État fédéral qui s'accrochent à le vestige d'influence dans la région. On a appris récemment que Riyad avait fait des commandes d'armement auprès de la Chine, que Riyad avait acheté du diesel russe pour le revendre aux Européens. Donc on peut penser que, in fine, les Européens paieront beaucoup plus que ce qu'ils n'auraient payé s'ils avaient fait directement affaire avec la Russie. Donc, pour l'instant, c'est une forme de, si je puis dire, de consolidation après les événements relativement importants et vraiment fondamentalement qui altèrent complètement la dynamique dans la région. On assiste maintenant à une consolidation, mais je pense qu'à terme, effectivement, ce n'est pas tant que le Proche-Orient aura l'ambition ou le désir d'influer sur les politiques occidentales. Ces derniers font les erreurs eux-mêmes qui les mettent dans des situations inextricables. Mais ce faisant, ce qu'on peut anticiper, c'est peut-être une ère de stabilité, et avec la stabilité vient la prospérité. Et ça, c'est très bon pour le Moyen-Orient, qui est quand même, je le rappelle, une région qui, depuis au moins une centaine d'années, fait l'objet de dislocations politiques qui empêchent le développement nécessaire.
Merci infiniment. Alors Arnaud Develay, juriste international, était avec nous par Skype. Également Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles par téléphone. Merci à vous, à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Vous pourriez revoir toutes les informations, également cette émission, les autres émissions, les reportages, les entretiens exclusives sur notre site french.presstv.ir. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
la miniature persane. La peinture à l'époque Rajar. La période Rajar a été une période politiquement très mouvementée, intérieurement et extérieurement. Une période qui a connu beaucoup de changements et de développements mondiaux, qui ont eu chacun une grande influence sur la situation politique et culturelle de l'Iran. Malgré tous les problèmes politiques et sociaux, les rois Rajar prêtaient beaucoup attention aux arts et en particulier à la peinture. Ils étaient d'ailleurs souvent artistes. À titre d'exemple, Fath Ali Shah, dont le règne a prouvé son incapacité à bien diriger le pays, était un poète relativement talentueux et composé sous le pseudonyme de Khaqan. Nasser-ed-Din Shah, quant à lui, avait un réel talent d'écrivain. Il s'intéressait également à la peinture et était l'élève de Kamal al-Mulk. Il a également introduit la photographie et le cinématographe en Iran. L'étude par les artistes iraniens des styles, méthodes et techniques de la peinture occidentale, en particulier les peintures italiennes et françaises, a permis à la peinture iranienne, vieille de plus de 1000 ans, de se rénover avec la mise en œuvre des nouvelles expériences, styles et outils occidentaux. Il faut indiquer qu'avant cette évolution, la peinture persane fut largement influencée par les formes orientales marquées par des compositions plates, centralisées et en spirale, initiées et propagées par les artistes chinois de la période timouride. Les artistes persans ont alors commencé à appliquer de nouvelles techniques venues de l'Occident, comme l'utilisation de la toile, de nouvelles brosses et de nouvelles perspectives. En utilisant ces nouvelles techniques, avec talent et créativité dans le cadre de la peinture traditionnelle, les artistes iraniens ont réussi à rénover la peinture iranienne, entrée dans une nouvelle ère. Durant l'ère Rajar, la peinture et le dessin iranien se sont distingués l'un de l'autre et sont devenus deux disciplines différentes. Avec l'apparition des premières machines imprimées, et la généralisation de l'utilisation de la lithographie, les artistes ont créé les premiers échantillons de gravures sur bois, ce qui a entraîné la diminution des difficultés techniques, notamment en permettant une meilleure impression des lignes et surfaces. Ces gravures peuvent être considérées comme les premières œuvres d'art graphique en Iran. Durant le règne de Nasser-ed-Din Shah, la presse prend un essor notable et de nombreux journaux sont publiés. L'impression s'étant améliorée notamment avec les efforts de simplification calligraphique de Mirza Reza Kalhor et les innovations en illustration d'Abu Torab Ghaffari, peintre de la cour Rajar. Le développement de la presse a poussé à un développement des arts graphiques et visuels. Le dessin animé en Iran date également de cette période. Durant l'ère constitutionnelle, même si la majorité de la population était analphabète, il était pourtant nécessaire pour les constitutionnalistes que les citoyens aient accès aux informations relatant les événements politiques. Les caricatures se généralisent également et permettent l'expression du mécontentement général. On peut en particulier citer les illustrations et les caricatures des journaux satiriques Molla Nasreddin et Hasharatul Arz. La sensibilisation des dirigeants aux opinions politiques et sociales du public est peut-être l'une des raisons les plus importantes du développement de l'art de cette période. Thank you. les artistes de l'époque Rajar s'intéressaient plutôt aux détails physiques de leurs sujets. Par exemple, l'esquisse des hommes, et en particulier des dirigeants de ce moment-là, se concentrait sur l'illustration de la moustache, la barbe longue et noire, la maigreur de la taille, les sourcils joints, le chapeau orné, l'arme décorée de bijoux et de beaux vêtements. Les sujets étaient dessinés sans complexité. En ce qui concerne les femmes, leurs portraits mettaient en valeur les courbes du corps, les tatouages, les bijoux et en général les éléments caractérisant les femmes de la cour. Elles étaient également souvent portraiturées avec leurs enfants pour rappeler leur pouvoir de fertilité. Les portraits montrent les sujets fixant directement le spectateur. Cette caractéristique est aussi visible dans les films et les photos de cette époque, comme si le sujet défiait avec mutisme le spectateur. Durant cette époque, les artistes ont abandonné l'abstraction, l'imaginaire et l'absence de perspective, tout inspiré par l'art asiatique. Sous l'influence des échanges culturels et des nouvelles techniques venues de l'Occident, les artistes iraniens ont commencé à appliquer l'anatomie et des perspectives variées, tout en utilisant des couleurs naturelles ainsi qu'une nouvelle luminosité pour créer des œuvres réalistes et orientées vers la nature. La lumière occupe une place importante dans les œuvres de cette époque, mais l'angle de la lumière n'était pas très précis. C'est pourquoi la surface des tableaux était marquée par une luminosité très contrastée. L'un des désavantages de cette méthode est que l'artiste ne pouvait pas représenter les trois dimensions. C'est pourquoi les tableaux de cette époque sont uniquement bidimensionnels. Cependant, à la fin de l'époque Rajar, les artistes ont commencé à prêter beaucoup plus attention au volume. Peu à peu, à la fin de cette période, un grand changement est perceptible dans toutes les formes existantes, par exemple dans les dessins des objets en verre ou en porcelaine, sur les toitures, les vêtements féminins, les gestes des sujets, les symboles utilisés dans les œuvres, comme la canne, la chaise, la couronne, le chapeau des hommes, etc. La peinture à l'époque Rajar peut être subdivisée en trois périodes différentes. La première période, s'inscrivant dans le règne d'Aga Muhammad Khan Rajar, est marquée par la relation visuelle entre les éléments de la peinture Zand, Safavide et Rajar. La deuxième période, qui va du règne de Fatali Shah à celui de Nasiruddin Shah, durant laquelle les artistes iraniens découvrent et apprennent les principes de la peinture européenne. Et la troisième période qui commence sous le règne de Nasiruddin Shah, où les artistes iraniens commencent à appliquer les techniques européennes dans leurs œuvres. Au fur et à mesure, les tableaux iraniens se sont davantage rapprochés de la peinture européenne avec la généralisation de l'imprimerie et la diffusion d'une certaine culture au sein de la population, l'accès et l'intérêt pour la peinture se sont accrus. La peinture, jusqu'alors réservée à la cour sous sa forme classique, est devenue un art public, de même que la photographie et le cinéma. Ces deux dernières disciplines jouent d'ailleurs un rôle notable dans le développement de la peinture moderne en Iran. Deux courants de peinture sont notables durant cette période. Le premier, influencé par la religion et la culture publique, est connu sous le nom de Naqashi Qahvekhane. Peinture de café. Le deuxième est celui de l'école de Kamal al-Molk, une école marquée par une formation académique et qui suit des perspectives scientifiques. Les artistes formés dans cette école ont pu créer les premières œuvres réalistes de l'époque. C'est pour la première fois dans l'histoire artistique de l'Iran qu'outre des maisons de peinture affiliées à la cour, des ateliers d'art ont pu se développer indépendamment, comme celui de l'époque polytechnique Darul Funun ou l'atelier artistique du ministère de l'Éducation. Ces ateliers séparés de la cour ont influencé le développement de l'art pour les prochaines générations. Le budget de ces deux écoles était fourni par le gouvernement. Il est à préciser cependant que plus que la cour Rajar, ce sont les profonds changements qui vivaient la société iranienne et le monde de l'époque qui ont influencé la peinture iranienne de cette période.
Thank you.